Il y a quelques années, avec mon épouse, nous étions de retour d'Allemagne. Nous étions sur une autoroute. Et puis, à un moment, j'ai pris une bretelle de sortie. On était en pleine discussion. Et puis, au bout de quelques minutes, sur la route, j'aperçois au loin des véhicules qui viennent dans notre direction et qui nous font des appels de phare. Ma femme me dit: attention, regarde, si tu ne roules pas trop vite, certainement qu'il y a les gendarmes pas très loin. Et puis, je regarde, pas de gendarmes. Et en fait, je venais de découvrir que par mégarde, je venais de reprendre l'autoroute, mais cette fois-ci en sens inverse. Alors, dans ces moments-là, vous savez ce qu'il faut faire? Demi-tour, parce que le danger est en face. La conversion, c'est aussi simple que cela. Il faut faire demi-tour. On doit se tourner vers Dieu, non pas seulement parce que Dieu nous aime, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est grand, parce que Dieu est puissant. Cela fait partie de la nature même de Dieu. Mais si nous devons nous tourner vers Dieu et nous détourner de nos péchés, c'est parce que notre nature ne peut pas satisfaire la sainteté de Dieu. Il nous faut renoncer à la nature corrompue, cette nature corrompue qui nous condamne irrémédiablement à l'enfer. Et le seul moyen d'échapper à la condamnation, c'est de nous placer dans le Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut changer de régime. C'est ce dont la Bible parle. Et même l'apôtre Paul a consacré 8 chapitres dans l'épître aux Romains, dans laquelle il parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Nous sommes sous l'esclavage d'une loi sans Jésus. Et cette loi, c'est la loi du péché qui nous conduit irrémédiablement à la mort. Et le seul moyen d'être soustrait à cette loi, c'est de découvrir la loi de Christ. Et seule la loi de Christ qui s'établit en nous par la puissance du Saint-Esprit peut nous libérer de cette loi du péché et de la mort, des vices et des passions qui agissent dans notre chair. Jésus désire nous libérer de la puissance du péché qui règne sur nous. Sans Christ, notre vie est régie par la puissance du péché. Notre vie s'organise autour de nos vices, autour de nos envies, autour de nos désirs, autour de nos passions. Nous sommes esclaves, livrés au péché, c'est ce que dit la Bible. Mais lorsque nous venons à Jésus, il nous libère de cet esclavage. Nous sommes soumis ensuite à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et nous pouvons vivre une vie de sainteté. Nous ne sommes plus liés par la puissance de nos péchés. Mais maintenant, nous vivons dans la liberté des enfants de Dieu. Et une grande foule suivait Jésus. Imaginez cette foule, une foule composée de miraculés. Imaginez l'ambiance, l'atmosphère, cette atmosphère électrique, cette foule qui suivait Jésus sur le chemin, cette foule que Jésus drainait lorsqu'il traversait les villes et les villages, les aveugles qui avaient recouvré la vue, les sourds qui entendaient, les lépreux qui étaient purifiés, les muets qui parlaient, les possédés qui étaient délivrés, les infirmes qui couraient, les morts qui ressuscitaient. Imaginez l'ambiance, imaginez l'atmosphère. Et le Seigneur qui s'arrêtait et qui enseignait les choses concernant le royaume de Dieu. Oui, Jésus est venu pour faire des miracles ici-bas, mais il est venu surtout pour nous adresser un message, le message de la réconciliation avec Dieu. Nous devons nous réconcilier avec Dieu parce que nous sommes sous la colère de Dieu. Nous sommes révoltés à cause de la puissance de notre péché. Il y a quelques années, je me trouvais en Ouganda dans un village, le village de Busia. Et alors que j'étais en train de m'adresser à la foule, tout à coup le vent s'est mis à tourner. Et le vent est devenu de plus en plus violent. Quand soudainement j'ai vu une tornade emprunter la direction de mon pupitre. Je peux vous assurer que lorsqu'un vent tourbillonnant, violent comme cela, vient dans votre direction, c'est impressionnant. Et alors que j'annonçais la parole, je voyais au loin cette tornade qui venait dans notre direction, et tous mes amis africains se sont rendu compte rapidement qu'il fallait se sauver pour échapper au danger. Et en quelques secondes, j'ai vu un auditoire de plusieurs milliers de personnes se disloquer. J'ai vu les gens partir en courant dans tous les sens. Et j'étais là derrière mon pupitre. C'était le moment de l'appel au salut. C'était le moment où il fallait dire aux âmes de se tourner vers Jésus. Et j'avais le choix. Soit je restais, je risquais d'être emporté par la tornade, ou je m'enfuyais avec tous mes amis africains. Mais je me suis cramponné encore au pupitre et j'ai dit: ne craignez pas cette tempête, craignez plutôt cette terrible tempête dont parle la Bible, la tempête du jugement et de la condamnation. Venez à Jésus. Des milliers sont partis. Quelques dizaines ont couru pour venir trouver refuge sous l'estrade. et je les ai rejoints pour prier avec eux, et c'est sous l'estrade qu'ils se sont tournés vers Jésus. Il y a une terrible tempête qui va frapper le monde. Une terrible tempête attend l'humanité. La Bible dit que Dieu va juger les vivants et les morts par celui qu'il a ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est pourquoi le message biblique est un appel à venir à Dieu. C'est comme ce que déclare le prophète Amos, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut nous préparer à la rencontre de notre Dieu. » Jésus faisait des miracles. Alors nous allons voir pourquoi. Pourquoi Jésus faisait-il des miracles? Une question importante. Premièrement, Jésus faisait des miracles pour confirmer qu'il est la vérité. On va lire dans Matthieu 8, juste un peu plus loin. Nous avons lu dans Matthieu 4, on tourne quelques pages, et nous allons lire quelques versets cet après-midi. Matthieu 8, verset 14. Premièrement, donc, Jésus fait des miracles pour confirmer qu'il est la vérité. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, et ayant la fièvre, il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus est venu pour accomplir la vérité. Il est venu pour accomplir toute la loi. Les 613 commandements et ordonnances du Pentateuque, les principales prophéties que nous connaissons, les 54 prophéties messianiques, ont été accomplies en la personne de Jésus. Il est vraiment le Messie. Il a tout accompli. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient celui qui devait venir pour libérer Israël du joug se sont accomplies, se sont concentrées dans le ministère même de Jésus, jusque dans sa mort, jusque dans sa résurrection, jusque dans son ascension, jusque dans son règne sur le trône de la gloire. Alléluia, il est vraiment le Messie. Certains spécialistes ont recensé, au moyen d'ordinateurs sophistiqués, plus de 32 500 promesses dans la Bible. Jésus les a accomplies. Jésus a tout accompli. Il est venu pour accomplir la vérité. Et bien plus que cela, il est venu pour révéler la vérité incarnée. Il est le Verbe incarné, la vérité incarnée. Et Jésus, la vérité, prêchait la vérité. Et Jésus, la vérité, a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque nous nous approchons de Jésus, nous recevons la puissance de la vérité. Et cette vérité nous libère de l'erreur, du mensonge, du joug du diable. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que l'ennemi qui régit ce monde, vous savez que ce monde gît sous la puissance du malin. Et l'apôtre Paul explique que cet ennemi a jeté un voile sur l'intelligence des êtres humains afin qu'ils ne voient pas briller la gloire et la splendeur de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et Jésus est venu pour manifester l'éclatante vérité. Et lorsque nous entendons l'évangile de la vérité, alors nos yeux s'ouvrent. Le voile de ténèbres est déchiré et nous trouverons alors le chemin du salut. Alléluia. Il y a quelques années, je prêchais dans l'Est de la France et alors que je commençais à avancer dans ma prédication, soudainement j'entends sur le côté droit de l'estrade un rire qui se fait de plus en plus fort. Et à mesure que le rire augmente, cela me déconcentre et je tourne mon regard vers la droite et j'aperçois une dame qui pouffe de rire et c'est de plus en plus fort. De plus en plus important, et je vois à côté d'elle un homme, mais lui qui pleure et qui pleure. Alors j'étais un peu déstabilisé dans ma prédication et j'essayais tant bien que mal de m'accrocher à mon message. Je ne voulais pas interrompre mon message pour leur donner trop d'importance et détourner l'attention de l'auditoire et bien sûr sur ces gens. Alors j'essayais de persévérer dans ma prédication et je voyais cette femme qui riait et cet homme qui pleurait. À la fin du message, je lance un piteux appel au salut. J'invite ceux qui veulent venir à Jésus à s'avancer. Deux seules personnes répondent. Eux. Ils se lèvent, ils viennent sur le devant. Je descends de l'estrade, je m'approche et je dis, vous allez enfin m'expliquer ce qui se passe, ce qui vous arrive. Et l'homme était là en train de pleurer. Il me disait, c'est ma femme. Je dis, formidable, on avance. Donc, si je comprends bien, vous êtes le mari, vous êtes l'épouse. Que se passe-t-il? Mais monsieur, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez. J'aimerais tellement comprendre. Et il m'explique, il me dit, c'est la première fois qu'on vient dans une telle église, c'est la première fois que nous écoutons l'évangile. Et il dit, ma femme, je l'ai emmenée voir tant de spécialistes, nous sommes allés voir tant de professeurs, nous sommes allés dans des hôpitaux, elle souffre d'une lourde dépression depuis des années. C'est pourquoi je pleure, c'est pourquoi elle rit. Jésus est vivant, il vient de la guérir. Alléluia! Je venais d'assister véritablement à la puissance de Jésus qui venait de visiter cette dame, et quelques temps plus tard, le pasteur m'invitait pour les plonger dans les eaux du baptême. Même les enfants sont convertis suite à la guérison radicale de la maman. Nous avons annoncé la vérité, et Jésus, la vérité, a rendu libre non seulement cette dame, mais aussi cet homme et tous les enfants dans la famille. Alléluia! Oui, Jésus fait des miracles pour confirmer qu'il est la vérité. Deuxième point, il fait des miracles pour détruire l'œuvre du diable. Jésus parut, nous dit la Bible, pour détruire les œuvres du diable. Quand je feuillette ma Bible, je trouve de nombreux termes bibliques qui mettent en évidence la victoire de Jésus sur le diable. Il est, depuis la Genèse, écrasé. Le diable est écrasé. Il est vaincu, il est dépouillé, il est désarmé, il est lié. Il est anéanti. Le diable est un ennemi vaincu. Jésus a dépouillé les puissances, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles, nous dit la Bible, par la croix. Le diable, face à Jésus, n'est qu'un vulgaire épouvantail qui n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi celui qui est esclave du diable, celui qui est tourmenté, qui est victime des assauts de l'ennemi, celui qui est une proie entre les mains du malin, pourra trouver la délivrance en s'approchant du Seigneur Jésus. Lorsque je me trouvais en Inde en 1999, nous avions une campagne dans la ville de Salem, près des grands temples hindous. Et sur la route qui me conduisait de Madras, dans la ville de Salem, nous avions 4 heures de route, eh bien, il y avait un petit village, le village de Moussouri. Et le coordinateur de la campagne, en m'emmenant à la ville de Salem, me dit « Je t'ai préparé une surprise, nous allons avoir une réunion d'évangélisation » dans ce village. Alors, nous sommes arrivés dans ce lieu où se réunissaient les croyants. J'ai cherché l'église. En fait, les membres de cette assemblée n'avaient pas les moyens de s'offrir un bâtiment. Alors, où est-ce qu'ils se réunissaient ? Sur le toit. Sur le toit d'un immeuble, un immeuble de 2 étages. Il fallait prendre un escalier tournant et on arrivait sur le toit. Et là, les croyants avaient planté des mâts à chaque extrémité de la toiture, ils avaient tendu des toiles et cette église se réunissait à ciel ouvert, en quelque sorte. Il y avait une centaine de membres et lorsque je suis arrivé, il y avait plus de 200 personnes. Le pasteur avait la joie de me dire « Regardez, on a dit que vous veniez, on a dit qu'il y avait un homme blanc qui venait prêcher l'évangile, les chrétiens en ont parlé autour d'eux, ils ont amené plus d'une centaine d'amis ». Quelle réunion d'évangélisation! J'ai prêché la parole, nous avons prié pour les malades, plusieurs boiteux ont marché, ont été guéris. Et puis là, au moment de la prière, un homme se manifeste avec violence, il est jeté à terre par les démons et il va être radicalement délivré par la puissance du Seigneur Jésus. Mais ce que j'ignorais, c'est que cet homme était connu de tout le village. Il était surnommé le mendiant de Moussouri, possédé depuis plus de 25 ans. Cet homme était incapable d'être lié avec des chaînes. Il brisait les chaînes. Un homme d'une extrême violence. Un homme considéré comme fou, irrécupérable. Mais ce jour-là, Jésus l'a délivré. Et le lendemain, qu'a-t-il fait ? Eh bien, cet homme est allé travailler. Par le passé, il était incapable de travailler parce qu'à chaque fois qu'il tenait un outil en métal, les démons lui commandaient de se meurtrir avec les outils. Donc, il était contraint à vivre de la mendicité. Et puis, le jour qui a suivi sa délivrance, il est allé dans la rizière, il a commencé à cultiver le champ, il a commencé à travailler parce qu'il voulait vérifier s'il était vraiment libre. Le soir, à la réunion suivante, je passais à nouveau dans le village, nous avons une deuxième réunion, l'homme rend témoignage, il s'adresse à ces centaines de personnes qui sont ici maintenant. Cette église, depuis les miracles que nous avons eus dans cet endroit, cette église compte plusieurs milliers de membres aujourd'hui. Il y a eu un mouvement puissant du Saint-Esprit avec de tels miracles qu'il y a eu une percée dans toute cette région. Et l'homme a rendu témoignage, il dit « Vous me connaissez tous, je suis le mendiant de Moussouri, j'étais fou depuis plus de 25 ans, incapable de travailler, car à chaque fois que je prenais un outil, les démons me disaient de me meurtrir, de me tuer. Mais hier, l'homme blanc a prié pour moi. J'ai cru en Jésus. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Alors j'ai voulu vérifier. J'ai travaillé toute la journée. Pendant plus de 12 heures, j'ai travaillé. Je n'entends plus la voix des démons. Mais quand je travaille dans la rizière, il y a comme un chant qui monte dans mon cœur et qui glorifie le nom du Seigneur Jésus qui m'a rendu libre. Alléluia. L'homme a été délivré par la puissance du Seigneur Jésus. Jésus fait des miracles pour détruire les œuvres du diable. Es-tu lié par un démon? Jésus va te délivrer. Es-tu lié par les sortilèges? Est-ce qu'il y a des gens au pays qui trafiquent sur toi? Au nom de Jésus, tu seras libéré aujourd'hui. Si tu livres ta vie au Christ, le Seigneur pourra briser tes chaînes. Amen. Pourquoi Jésus fait-il des miracles encore? Troisième point pour récompenser la foi. La foi est agréable à Dieu. Dieu aime voir la foi. Dans Matthieu 8, verset 5, la Bible nous parle d'un centurion qui vient voir le Seigneur et puis qui lui fait cette prière. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. » Jésus lui dit tout simplement « J'irai, je le guérirai. » Et l'homme, se sentant indigne, lui dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais j'ai l'habitude de donner des ordres à mes soldats. Je dis à l'un « Va, il va, fais, il fait, viens, il vient. » Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et la Bible nous dit qu'à l'heure même, l'homme fut guéri par le Seigneur Jésus en réponse à la foi. Mes amis, la foi est extrêmement importante. Et Dieu désire prendre soin de votre foi. Quelqu'un dira, moi je n'ai pas la foi. Détrompez-vous, vous l'avez. On l'a tous d'ailleurs. Puisque la Bible dit que Dieu a départi à chacun d'entre nous une mesure de foi. Et si Dieu nous dit, repentez-vous de vos péchés, croyez à la bonne nouvelle, Dieu ne nous demande pas quelque chose d'impossible. S'il nous dit croyez, c'est que nous sommes capables de croire. Nous avons tous suffisamment de foi pour croire que si nous travaillons pour un patron, à la fin du mois, il nous remettra un chèque pour récompenser ce travail accompli. Nous avons tous la foi que si nous appuyons sur l'interrupteur, lorsque nous entrons dans une pièce, la lumière va s'allumer normalement. Ça, c'est la foi. La foi, c'est la confiance. Nous sommes capables de croire. Et ce que nous devons surtout croire, c'est Dieu. La foi. Dieu veut en prendre soin. Dieu veut la dynamiser. Par sa parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et vous savez que Dieu, il a la foi aussi. Et oui, ça n'est pas surprenant que dans la Bible, nous puissions lire « Ayez la foi de Dieu ». Et oui, parce qu'il a fallu de la foi à Dieu pour créer un monde comme le nôtre. Il a fallu de la foi à Dieu pour créer Adam et Ève, pour les placer dans le jardin. Il a fallu de la foi à Dieu pour incarner sa parole et envoyer Jésus sur la terre. Il a même fallu de la foi à Jésus pour venir sur la terre, mourir sur la croix, alors que tous les disciples s'étaient enfuis parce qu'ils avaient peur du pouvoir romain. Il a fallu la foi. Mes amis, Dieu a la foi. Dieu croit. Et c'est pourquoi Dieu détient tous les droits d'auteur de la foi et qu'il nous demande de croire en sa parole, parce que c'est par sa parole qu'il a créé l'univers et c'est par sa même parole qu'il veut créer une vie nouvelle dans notre vie. Alléluia. Il veut nous réparer, nous restaurer. Il veut nous sauver. La foi va changer votre monde. La foi va changer votre univers intérieur. La foi, ça change tout le décor à l'intérieur. Hein. Moi, à l'âge de 17 ans et demi, je voulais mourir. J'étais sur le bord de ma fenêtre, prêt à sauter dans le vide. J'entendais la voix des démons qui me disaient de me jeter en bas. Voilà quel était mon état spirituel. Mais lorsque la foi est venue, la foi s'est élevée contre la fatalité. La fatalité, que dit-elle ? La fatalité, elle dit, c'est inutile. Elle dit, c'est peine perdue. La fatalité, elle dit, mais t'as dû être fabriqué comme ça, ça ne s'arrangera jamais. La fatalité, elle dit, c'est ta nature. C'est plus fort que toi. Jamais tu ne t'en sortiras. La fatalité, elle dit, mais il n'y a pas de remède au genre de problème que tu traverses. La fatalité, c'est, on t'a pas aimé quand t'étais enfant, mais c'est normal. Tu n'es pas quelqu'un d'aimable. C'est certainement les astres qui l'ont voulu. Ou alors ce sont les esprits qui l'ont désiré. La fatalité, elle nous condamne, elle nous enferme, elle nous emprisonne, elle nous met dans des boîtes, elle nous met dans des cases, elle nous met dans des prisons. La fatalité dit, c'est irrémédiable, c'est inéluctable, c'est irréparable, c'est plus fort que moi. Mais la foi, elle dit, tout est possible. La foi, elle dit, ça va changer. La foi dit, il y a une solution. La foi dit, Dieu va mettre un terme à tout cela. Oui, avec la foi en Jésus, votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Je me trouvais dans l'est de la France il y a quelques années, et là nous tentions d'implanter une église dans un village. Nous avions mis un chapiteau de 200 places, et chaque soir, je prêchais sous la tente, et il y avait un peu plus d'une dizaine de personnes qui venaient. Et ceux qui venaient, c'était les chrétiens d'une église qui était à une demi-heure de route du lieu où nous étions en train d'évangéliser. Et chaque soir, le seul qui répondait à l'appel de ma prédication, c'était le chien errant du village. Il s'approchait devant l'estrade, certainement pour m'encourager. Et je voyais ce chien qui, au moment de l'appel, à la repentance, au changement de vie, s'avançait certainement pour dire, tu vois, il y a quand même quelqu'un qui répond, persévère, ça marchera un jour. Et c'était un cauchemar, cette mission d'évangélisation. Je ne voyais aucun résultat. Et puis, au bout du troisième jour, je vois une brave sœur en Christ qui s'approche sur le devant. Et cette sœur souffrait d'une maladie extrêmement grave, une dégénérescence des muscles autour de sa colonne vertébrale. Elle souffrait d'une infirmité telle que, depuis des années, elle avait les plus grandes difficultés à marcher. Et puis, elle vient me voir sur le devant et elle me dit, frère, priez pour moi, je souffre. Et elle me décrit son état de délabrement physique. Et quand j'entends vraiment sa souffrance, je me dis, Seigneur, comment tu peux faire quelque chose pour elle? Vraiment, il faut un miracle. Il n'y a que toi qui peux faire un miracle pour elle. Seigneur, vraiment. Et le chien me regardait sur le côté gauche. C'est Seigneur, regarde, c'est un cauchemar. J'ai 200 places sous chapiteau. Il y a 10 chrétiens qui viennent m'encourager. Cette sœur me dit que ça fait des années qu'elle est infirme et que son état ne fait que s'empirer. Et le chien est le seul à répondre à mes appels. Et puis je vois, cette sœur me dit encore, frère, priez pour mon mari. Je dis, oui, je veux bien prier pour votre mari. Elle me dit, ça fait 40 ans qu'on prie pour lui, il ne veut rien entendre. Je dis, Seigneur, j'en croyais pas mes oreilles. Je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose comme ça. Alors, j'ai dit, j'étais fatigué après la prédication. Il n'y avait pas eu de résultat, sauf le chien qui était venu sur le devant. J'ai dit, Seigneur, tu bénis cette dame, tu bénis son mari. Amen. Et je suis rentré me coucher. Le lendemain, je viens sous le chapiteau et puis je prêche sur la femme courbée ce soir-là. Et j'avance dans mon message. Elle était courbée, elle se redressa, elle glorifia Dieu. Et alors que je vais prêcher ce message, quelque chose va se passer. Je vois les quelques chrétiens qui arrivent un peu en retard, et puis j'aperçois cette brave sœur en Christ qui rentre sous le chapiteau, et puis on avait prié la veille pour son mari, cet homme qui ne voulait rien savoir depuis plus de 40 ans, et puis là, quand elle entre avec ses béquilles sous le chapiteau, elle s'arrête au milieu de l'allée, elle me regarde et elle me fait ça. D'un l'air de dire, ça marche. Et je regarde et je vois derrière elle un homme qui s'est habillé tout en noir, comme pour aller à l'enterrement. Et puis, il a la mine renfrognée, la tête baissée. Et puis, il avance comme ça, sous le chapiteau, comme un homme en deuil. Et il s'assoit à côté de son épouse. Et je pensais, c'est vraiment pas gagné, Seigneur, c'est vraiment pas gagné. Alors, je continuais dans mon message. Et alors que je dis, elle était courbée, elle se redressa, elle glorifia Dieu. Je vois cette sœur se lever sous le chapiteau, brandir ses béquilles, venir dans l'allée, elle les jette dans l'allée. Et elle part comme une bombe en courant jusque sur l'estrade. Et je la vois arriver comme une gazelle sur l'estrade. Elle me saute dans les bras comme ça. Et on saute ensemble sur l'estrade, guérie par la puissance de Dieu. Et alors que j'ai la femme de cet homme dans mes bras, je regarde l'homme dans les rangs. Il est en larmes. Il est en train de pleurer. La puissance du Saint-Esprit venait de le saisir, de traverser son âme. J'ai arrêté ma prédication. J'ai dit, quel est celui qui veut venir à Jésus? Ce jour-là, le chien n'a pas bougé. Mes amis, il est resté sur le côté. Et là, l'homme lui s'est levé. Et là, il est venu se mettre à genoux devant. Quelque temps plus tard, il était plongé dans les eaux du baptême. Le pasteur m'invitait pour baptiser cet homme. 40 ans, 40 ans de prière. L'Église avait prié pendant 40 ans. Alors, je ne sais pas si vous priez pour quelqu'un depuis 40 ans, mais j'aimerais vous dire qu'à Dieu, tout est possible et la foi lui est agréable. Et j'ai admiré la foi de cette sœur qui n'a jamais lâché pour son mari. J'ai admiré la foi de ces quelques chrétiens qui priaient pour lui depuis 40 ans. Dieu est un Dieu puissant et il honore la foi. Jésus faisait des miracles aussi pour prouver sa nature divine. Point numéro 4. Dans Matthieu 9, au verset 1er, il est question d'un paralytique couché sur un lit. On l'amène à Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors les scribes sont indignés. « Comment cet homme blasphème ?» Et Jésus connaissait leurs pensées. « Pourquoi avez-vous de telles pensées ? Car lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. » L'homme se leva et marcha, prouvant ainsi par le miracle que Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés. Il est vraiment celui qui est de nature divine, Jésus. Il peut pardonner les péchés. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas un super héros. Non, il n'est pas un gourou. Il n'est pas un grand chef religieux ou un super prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est la parole. Il est plus qu'un sage. Il est la sagesse. Et Jésus a proclamé la vérité. Et il pouvait pardonner les péchés parce que Dieu seul peut pardonner les péchés. Et Jésus est vraiment le Fils de Dieu capable de pardonner les péchés. Et c'est pourquoi lui seul pouvait donner sa vie sur la croix pour nos péchés, Jésus. Il est le Rédempteur. Seul le sang de Jésus, qui ne porte pas la marque du péché, pouvait couler sur la croix pour nous laver de nos péchés. Le sang d'un homme n'aurait rien pu faire concernant nos péchés. Il fallait que le sang qui coule sur la croix ne porte pas en lui la marque du péché. Et le sang d'un homme, le sang d'un tel homme, n'existait pas sur la terre. Il a fallu que Jésus vienne sur la terre, que la parole soit incarnée, et que Jésus, le Fils de Dieu sans péché, accepte de donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Il est vraiment de nature divine. Il est le Fils de Dieu. Les anges l'ont adoré. Nous le voyons dans la Bible. Les anges adorent Jésus. Des âmes viennent se prosterner aux pieds du Maître, reconnaissent sa royauté, sa souveraineté. Et Jésus, jamais ne les empêche de commettre un tel acte. Il est appelé dans la Bible Maître, il est appelé Seigneur, Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu sans tache qui ôte nos péchés. Il est le Verbe incarné. Il est Dieu béni éternellement. Oui, Jésus est vraiment de nature divine et il désire nous sauver et il peut nous sauver. Il désire se révéler et révéler dans nos cœurs sa nature divine.